Ouais, bonsoir à tous, bienvenue dans Djiboutique, voilà, l'émission qui vous ouvre des portes, des fenêtres, peut-être sur d'autres horizons. On se retrouve tous les mardis aujourd'hui, Aymeric au micro et Hubert à la technique, merci Hubert. Et on accueille un invité pour parler du Brésil. Alors, le Brésil, on aime beaucoup. Hein, alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui avec notre invité ? Eh bien, de la musique au Brésil, de la ville de Rio notamment, et puis de certains musiciens iconiques, dirons-nous. Henri Salvador, Gilberto Gil. Voilà un peu le programme d'aujourd'hui. J'accueille donc Emmanuel de Riquel. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Aymeric, merci de me recevoir.
Écoute, c'est un grand plaisir, hein, depuis que, parfois on aperçoit comme ça des ombres qui circulent, on entend parler d'eux, hein, et puis on se dit, ah, c'est chouette, c'est intéressant, tiens, quelqu'un qui ouvre une salle, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui a interviewé Gilberto Gil, non, c'est pas possible, tout ça, non, et puis on se dit, ah, mais nous qui faisons une émission avec une bonne tendance orientée latino, pas seulement, mais on aime beaucoup, on se dit, ce serait bien de l'inviter, ce monsieur, hein, et bien voilà.
Si je faisais juste un tout petit mot, hein, à propos de fantômes et d'émission, on peut dire que c'est un peu un retour aux sources, parce que tu as créé l'émission pour parler des musiques du Brésil, en fait, à la base.
Ça, c'est vrai. C'est vrai.
Et donc, on en revient aux sources.
Là. Et tu vas voir qu'il y a pas mal de petits parallèles amusants, notamment, le fait que... tu vas nous le dire toi-même, Emmanuel, mais on lorgnait un petit peu vers l'Afrique. C'était mon cas aussi. Une inspiration forte. Et puis, finalement, le Brésil est venu comme un petit peu... On a découlé, en quelque sorte, j'aurais envie de dire. Enfin, je sais pas si comme ça pour toi aussi, mais...
J'ai jamais imaginé quand j'étais plus jeune d'aller au Brésil, ça m'intéressait absolument pas, je connaissais juste l'histoire du football avec Pelé, etc. Mais ça ne c'était absolument pas dans mon plan. Moi c'était l'Afrique, de par ma naissance, que je suis né au Congo, et puis j'ai eu la chance de faire pratiquement 4 ou 5 voyages en Afrique du Sud et dans tous les pays avoisinants. Et donc comme j'ai toujours été passionné par la musique, j'étais très passionné par la musique d'Afrique du Sud, de l'Afrique du Sud. Et j'ai par exemple un souvenir d'avoir assisté, je ne sais plus très bien quelle année c'était, mais au concert de Paul Simon avec... à l'époque de son disque Graceland, avec toutes ses vedettes de l'Afrique du Sud. C'était pour moi, un des plus beaux concerts que j'ai vécu. Bon, c'était aussi l'époque de Johnny Clegg. Et puis un jour, absolument par hasard...
I'm on a Graceland.
Ouais.
Memphis, Tennessee.
Tout à fait par hasard, de par mon métier, j'étais en Chine pour le travail. Et un jour, on me demande, tiens Emmanuel, on cherche quelqu'un pour un projet au Brésil, est-ce que ça t'intéresse? Moi, je dis oui, évidemment, on me propose de payer le voyage, on paye tout. Et je dis oui, voilà que je débarque à Rio. Et assez curieusement, c'est quelque chose dont je me souviens très bien. À la première seconde où j'ai mis le pied à Rio, je suis dit, ça c'est chez moi. Et je pense que c'est dû au fait que, bon, il y a beaucoup de similitudes par rapport à l'Afrique. Déjà, il y avait la température, je suis arrivé en plein au moment du carnaval, en février, il faisait une chaleur, il faisait 40 degrés, je crois. Il faisait chaud, il faisait humide. Et puis, le fait de voir une population à Rio, qui est une population très, très métissée. Bon, à Rio, il y a la mer, il y a la plage, il y a la montagne, il y a des influences européennes. Il y a des influences africaines. Donc ce métissage, ça m'a vraiment plu. Et donc je me suis dit, voilà, j'ai complètement abandonné l'Afrique, je ne suis plus jamais retourné. Et moi j'ai eu la chance de faire, à la fois d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel, plus de 100 voyages à Rio. J'ai fait 2-3 séjours de longue durée à Rio. Et en fait, je suis vraiment tombé amoureux de cette ville et j'ai eu un coup de foudre. Et puis voilà, c'est mon paradis là à Rio.
Voilà, donc tu as aussi cherché de par ton histoire et puis ton lieu de vie, ton nouveau lieu de vie, enfin un moment du moins Rio, et puis vu les attaches, tu as créé un peu des ponts entre l'Amérique latine et l'Europe. On parlait de ça aussi la semaine dernière, hein. On parle assez souvent quand même de ces histoires de ponts entre l'Amérique latine et l'Europe. Et donc, comme tu le dis, voilà, tu es arrivé à Rio. Alors rappelle-nous peut-être le premier voyage, tu as dit une date.
Voyage, c'était en 97, au moment du carnaval 1997.
D'accord. Ouais. Ok, donc tu arrives à Rio pour ton boulot et tu commences à découvrir la ville.
Oui, j'ai une petite anecdote. D'ailleurs, je suis arrivé, je pense, 15 jours avant le carnaval. J'étais dans un superbe hôtel, puisque je travaillais pour une multinationale. Et quand j'ai vu, au moment du carnaval, 2-3 jours avant, j'ai vu la population changer. J'ai vu, en fait, les gens de Rio partir de la ville. Et j'ai vu la ville envahie par des touristes. Des touristes européens, allemands, hollandais, belges, etc. Et j'ai vu cette ville changer. J'ai dit, mais c'est horrible ce truc, c'est insupportable. Et je suis allé à la réception de l'hôtel et j'ai dit, je m'en vais. Ils m'ont regardé avec des yeux en disant, mais c'est le carnaval. J'ai dit, je m'en fous, je m'en vais. Et parce que je n'aimais pas du tout cette ville qui s'est transformée. Et en fait, je l'ai constaté plusieurs fois. Au moment du réveillon, au moment du carnaval, la ville change complètement. Les habitants s'en vont parce que ils ont d'autres préoccupations, je dirais, et la ville est envahie par des touristes, et c'est une ville complètement différente.
Bah ça, c'est intéressant comme anecdote. En tout cas, on l'avait jamais entendu comme ça. Et c'est vrai que bon, on s'intéresse aussi aux thématiques du tourisme. Et là, comme tu le dis, c'est vrai que c'est étonnant. Même à Bruxelles, il se passe pas ça, alors que on mise pas mal sur le tourisme, du moins pour l'instant. Ouais.
Et alors, en fait, Rio, moi, je suis pas quelqu'un de très très classique. C'est-à-dire que j'aime pas. Quand je suis arrivé à Rio, je me suis pas précipité comme font beaucoup de gens, aller voir le pain de sucre, aller voir le Corcovado. J'ai pas fait ça du tout. Je l'ai fait beaucoup plus tard. Et comme je suis quand même resté assez longtemps, finalement, après, en 97, je suis quand même resté plus de 6 mois. J'avais pas mal de loisirs, je connaissais personne, je parlais pas la langue. Je dis, il faut que je connaisse cette ville. Et en fait, j'ai essayé de la découvrir par le biais de la musique. Alors, quand je suis arrivé au Brésil, je connaissais rien de la musique brésilienne. Je connaissais juste un disque de Frank Sinatra et Antonio Carlos Jobim. Et je connaissais aussi une chanteuse qu'on va écouter dans quelques minutes. Une chanteuse qui s'appelle Leni Andrade, qui est une chanteuse de jazz, que j'avais écoutée sur une radio à Paris, que j'aimais beaucoup. Et j'ai découvert le Rio par la musique. C'est-à-dire que, pour occuper mes loisirs, j'écumais les rues de Copacabana d'Ipanema, où il y avait encore beaucoup de boutiques de disques à l'époque. Et j'écoutais toutes sortes de musiques. Et c'est comme ça que j'ai connu plein d'artistes. Et puis après, je regardais le journal, et je regardais les concerts. Et donc, j'ai visité tellement de salles à Rio, qui beaucoup n'existent plus d'ailleurs, pour voir ces artistes que j'ai découverts en écoutant leurs CD, par exemple. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à aimer vraiment Rio. Et après, bon, j'ai fait les circuits plus classiques, mais au départ, j'ai pas fait ça.
Bah écoute, je propose qu'on commence avec ton premier choix musical, Influencia do Jazz.
Ouais, je peux peut-être en parler. Donc, Influencia do Jazz, c'est une composition d'un gars qui s'appelle Carlos Lyra, qui vit toujours. C'est un des fondateurs de la bossa nova. Il a 90 ans, 90 ans aujourd'hui. Et Leni Andrade, c'est une chanteuse, la plus grande chanteuse de jazz du Brésil, qui est morte il y a quelques semaines, et que les gens appelaient, que Toots Thielemans, par exemple, appelait la Ella Fitzgerald du Brésil. Et c'est une dame qui est. J'ai eu la chance d'être devenue une amie très très proche de cette personne. Et voilà, donc je souhaitais qu'on commence notre discussion avec cette musique, donc Influencia do Jazz de Leni Andrade avec un guitariste qui s'appelle Romero Lumbambo.
Se misturando, se modernizando, se perdeu. E o rebolado, cadê? Não tem mais. Cadê o tal gigado que mexe com a gente? Coitado do meu samba, mudou de repente. Influência do jazz. Quase que morreu. E acaba morrendo, está quase morrendo, não percebeu. Samba balança de um lado pro outro. O jazz é diferente, pra frente e pra trás. E o samba meio morto, ficou meio torto. Influência do jazz. E o afro-cubano vai, complicando vai, pelo cano vai. Vai entortando, vai sem descanso, vai, sai, cai do balanço. Pobre samba meu, volta lá pro morro, pede socorro onde nasceu. Pra não ser um samba com notas de mate, não ser um samba todo pra frente e pra trás. Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz. Thank you. descanso, vai sacar no balanço. Pobre samba meu, volta lá pro morro e pede socorro de nasceu. Pra não ser um samba com outras partes, não ser um samba todo pra frente e pra trás. Vai ter que se virar pra poder se livrar. Vai ter que se virar pra poder se livrar. Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência. Vai ter que se virar pra poder se livrar. Vai ter que se virar pra poder se livrar. Se livrar da influência. Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz. Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz. Vai ter que se virar pra poder se livrar da influência do jazz.
Toujours sur Radio Panique. Voilà, on vient de commencer avec une première salve musicale et cette influencia du jazz, une musique, un texte de Carlos Lyra, interprété ici par donc Lenny Andrade.
Oui, si je peux me permettre de raconter une petite anecdote
vas-y,
à propos
vas-y,
de cette
Emmanuel.
Chanson et de Lenny Andrade, qui explique un peu la manière dont j'ai découvert Rio. J'ai expliqué tout à l'heure, j'avais me soulier d'amitié avec cette chanteuse et elle venait d'enregistrer ce disque en studio à Rio et j'avais été dîner un soir avec elle, et en rentrant, elle m'a dit, ah, je vais te raccompagner chez toi, mais je vais te faire découvrir mon nouveau disque. Alors elle joue le disque, elle conduisait à l'époque, et elle passe le disque, et puis elle s'en va, elle fait tout un tour de Rio, elle passe par tous ses quartiers, Botafogo, Flamengo, etc. Et puis, le tour fini, elle me ramène devant chez moi, à Copacabana, et puis elle me dit, ah, Emmanuel, il reste encore une musique, tu veux l'écouter? Je dis oui. Hop, elle est repartie sur, sur Ipanema, et puis elle m'a ramené à la maison quand le disque est fini. Voilà, ça c'est une façon un peu... Enfin, unique, je dirais, de découvrir Rio, ce qui fait que c'est pour ça que je suis tellement amoureux de cette ville. Il m'est arrivé tellement de choses merveilleuses de ce genre-là que je ne peux être qu'amoureux de cette ville.
Ok, alors justement, bon, tu parlais un peu de ton côté fouineur dans les magasins de disques et tout ça. Oui, on imagine bien des magasins de disques et tout. Et alors, toi, tu es allé sur les traces de ce que tu connaissais. Tu cites Tom Jobim, l'art des rencontres, qui pour toi décrit aussi la manière dont tu as découvert Rio en rencontrant des gens, des artistes aussi. Cette vie, alors, de la samba qui se joue dans les petits endroits où on a des musiciens fabuleux qui parfois sont très accessibles. Tu me l'as dit l'autre jour quand on s'est rencontrés, hein, on prenait un verre et puis tu m'as dit ils étaient très accessibles. Est-ce que tu as pris une claque là-dedans? Ma question, c'est ça un peu. Est-ce que il y a de quoi prendre une claque, enfin, où tu as pris une claque au moment où tu as découvert cette scène qui est quand même différente de ce qu'on a ici en Europe. La manière dont la musique se vit là-bas, bon, c'est voilà, t'es même pas encore entré dans le bar, mais t'as déjà la musique en toi, quoi, en fait. Donc, est-ce que toi, ça t'a un peu perturbé ou je ne sais pas.
Mon opinion vis-à-vis de la samba, elle était assez progressive. Je dois avouer qu'au début, j'étais très branché jazz, bossa nova, et que quand on me faisait écouter des disques de samba, ça avait le don de m'énerver parce que c'était bon, c'est plus rythmé, etc. Et puis je maîtrisais pas la langue, donc je comprenais rien à ce qu'il racontait. Et donc j'ai mis du temps avant de m'imprégner de la samba. Alors qu'en réalité, la samba, à un moment donné, j'ai pris cette claque, comme tu le dis, parce que la samba, c'est vraiment on ressent quand on écoute la samba l'âme du peuple. C'est vraiment la musique populaire par excellence. Alors que la bossa nova, c'est une musique plus élitiste. La samba, c'est vraiment la musique du peuple même de Rio. C'est une musique qui est née à Rio. Et donc j'ai mis un peu de temps à le découvrir. Et j'ai effectivement fréquenté des endroits dans le centre de Rio, des vieux théâtres, où j'ai découvert les choses qui m'ont le plus impressionné, c'est que chaque école de samba a ce qu'on appelle la vieille garde, c'est-à-dire des musiciens qui ont parfois 80-90 ans. Et les premiers concerts de samba que j'ai vus, c'était de la vieille garde. Et c'était hyper émouvant de voir ces vieilles personnes, parfois pas toujours très mobiles, mais qui transmettaient une émotion sur scène. C'était absolument extraordinaire. Et bon, après, j'ai aussi découvert le fameux quartier de Lapa, qui est un quartier, vraiment le quartier bohème de Rio. Et à l'époque, bon, il y a 20-25 ans, je me rappelle avoir reçu cette claque aussi, parce que je sortais dans les rues. Bon, il faut toujours un peu se méfier de la sécurité à Rio, c'est pas toujours très évident, mais sortir à Lapa le soir avec une chaleur épouvantable et vous croisez des gens, vous savez pas trop de quel genre ils sont, masculins, féminins, travestis, des blancs, des noirs, enfin c'est extraordinaire cette ambiance. Et puis vous ouvrez une porte et vous entendez de la samba, vous allez un peu plus loin, vous entendez du blues. Et donc moi j'ai effectivement connu des petits endroits qui doivent encore exister, je pense aujourd'hui, où vous aviez des gens qui sont devenus parfois assez célèbres, qui ont commencé leur carrière à jouer, à chanter de la samba dans ces petits endroits, bourrés, parce que c'était très petit, avec plein de gens. Et puis voilà, donc ça a été un peu ma découverte de la samba. C'était un peu plus tard, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très, très... beaucoup plus émouvant à la limite que la bossa peut-être.
Et puis rendrons à César ce qui est à César, que la bossa aussi vient petit peu de la samba quand même.
Un petit peu, complètement en fait. Les créateurs de la bossa nova, ils ont simplement baissé le rythme de la samba et le pape là-dedans c'était Joan Gilberto qui a interprété toutes les sambas, il les a interprétées en bossa nova et quand on écoute les originaux c'est fabuleux de voir la différence entre l'original très rythmé et le résultat bossa nova très doux avec sa voix très suave, c'est assez impressionnant de voir le résultat. Ouais.
Alors la sélection suivante c'est Paulinho da Viola,
Ouais, ça s'appelle Fouillon Rio. En fait, c'est aussi une chanson qui pourrait.
Fouillon Rio.
C'est un rio qui a des. Ça veut dire, c'est l'histoire.
Il parle d'un fleuve ou
il parle
de la ville,
c'est un jeu de mots. Il parle des deux.
Il y a un jeu de mots. Hein,
Moi, je l'aime beaucoup cette chanson parce que c'est un peu mon histoire. C'est un rio, ben, une ville qui a débarqué dans ma vie. Et en fait, c'est une chanson qui était faite pour une école de samba qui s'appelle La Portela, qui est une des plus grandes écoles de samba de Rio. Et c'est un hymne vraiment. Moi personnellement, ça m'émeut chaque fois très fort quand j'entends cette musique parce que c'est tellement. Un tellement bel hommage à Rio que voilà. Enfin, je vous laisse le découvrir.
Coração for consultado para saber se andou errado, será difícil negar. Meu coração tem mania de amor, amor não é fácil de achar. A marca dos meus desenganos ficou, só um amor pode apagar. A marca dos meus desenganos ficou. Só um amor pode apagar. Porém, há um caso diferente que marcou num breve tempo meu coração para sempre. Era dia de carnaval. Eu carregava uma tristeza. Não pensava em novo amor. Quando alguém que não me lembra anunciou: Portela, Portela, o samba trazendo alvorada, meu coração conquistou. Minha Portela, quando vi você passar, senti meu coração apressar, todo meu corpo tomar, minha alegria voltar. Não posso definir aquele azul, não era do céu, nem era do mar. Foi um rio que passou em minha vida, e meu coração se deixou levar. Foi um rio que passou em minha vida, e meu coração se deixou levar. Laiá, 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 laiá.
Paulinho da Viola. Sur Radio Panique, l'émission Djiboutique. On accueille aujourd'hui Emmanuel de Riquel, un passionné du Brésil qui a découvert Rio il y a plus de 20 ans et qui depuis n'en démord pas.
C'est le cas.
Et il y retourne d'ailleurs dimanche. Chut, il faut pas le dire.
On peut le dire.
Mais pas trop fort.
Non, parfois j'ai un peu honte parce qu'on me dit « Ah, mais tu vas pour la planète, c'est pas bon d'aller si loin, etc. » Et quand je dis le nombre de fois où j'y suis allé, j'ose plus trop le dire en ce moment. Enfin bon.
Là, selon certains, il te reste 4 fois. Hein.
Oui, je sais, j'ai entendu ça.
Ben, celui-là,
je sais qu'il lui arrivera malheur parce que c'est quand même pas la bonne idée.
Ok, alors il y a une rencontre, enfin pas vraiment une. Enfin si, quelque part une rencontre, mais provoquée ce coup-ci, c'était pas le fruit du hasard, mais au fil de tes pérégrinations et de tes découvertes parmi des artistes des Brésiliens, mais aussi des plus francophones, hein, comme un certain Henri Salvador.
Oui, alors là, c'était une histoire assez intéressante parce que, bon, Henri Salvador, déjà, c'était l'idole de mon enfance, parce que dans les années 60, le temps commence à passer. Henri Salvador, c'était une immense vedette. Vous ne pouvez pas imaginer, bon, avec des chansons comme Zorro est arrivé, Mini Petite Souris, Travail c'est la santé, etc. Henri Salvador vendait des disques par milliers, par millions, et c'était vraiment une énorme vedette à la télévision aussi. Et donc ça, c'était l'idole de mon enfance. Et puis bon, le temps a passé, j'ai grandi, etc. Et je me suis un peu écarté de Henri Salvador, parce que les goûts changent, puisqu'il avait fait ne me plaisait plus tellement. Et puis voilà qu'en 2000, en l'an 2000, apparaît comme ça tout d'un coup, je me rappelle ce coup de foudre, sur la télévision, je vois un clip de Henri Salvador qui chante Jardin d'hiver. J'ai dit, c'est quand même incroyable. Alors à ce moment-là, le Brésil que je connais, commençais à bien connaître, puisque ça faisait quand même 3-4 ans que je le connaissais, et Henri Salvador se sont de nouveau rejoints. Je dis, c'est quand même fou, l'idole de ma jeunesse, la voilà maintenant au Brésil, et j'ai essayé de comprendre, je dis, tiens, mais quel est le lien entre Henri et le Brésil? Bon, je savais, d'après mes recherches, j'avais vu dans des bouquins sur l'histoire de la bossa nova qu'il mentionnait Henri. Mais sans plus. Par contre, j'entendais Henri qui expliquait à des journalistes qu'il avait inventé la bossa nova, que Jobim lui avait dit qu'il avait été voir un film, blablabla, enfin bon, bref. Et je dis, mais ça, c'est
quand même... Il tire un peu la couverture à lui, quoi.
Oui, mais enfin bon, ça, c'est des histoires un peu d'artistes et un peu, qui sont un peu cabotins, je dirais. Puis les journalistes, souvent, ils croient ce qu'on leur dit, donc ils ne pourraient pas lui reprocher Henri. Si les journalistes gobent ce qu'il lui dit, ben, c'est leur problème. Mais dis-moi, ça ne m'allait pas, parce que je n'avais jamais entendu parler de ça au Brésil. Et donc, je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose quand même. Je me suis dit, mon fil conducteur pour mes prochaines visites à Rio, et liées à la musique, c'est d'essayer de comprendre le lien entre Henri Salvador et le Brésil. Et donc, j'ai fait vraiment des recherches. Pareil, c'est des expériences inoubliables. Par exemple, j'ai été dans des archives du journal principal de Rio. À l'époque, c'était encore des microfilms. J'ai parcouru des centaines de microfilms pour essayer de trouver des traces d'Henri Salvador au Brésil. Et j'ai appris qu'Henri Salvador, par exemple... Bon, il était né en Guyane, donc déjà c'était à côté du Brésil, donc c'était déjà un élément important, mais il avait aussi été pendant la guerre, pendant 3-4 ans, il avait été avec un groupe de musiciens de jazz qui s'appelait Reventura, et il avait joué à Rio, et donc il avait quelque chose qui se passait avec Henri et Rio. Mais bon, donc j'ai vraiment fait ces recherches-là. Et puis un jour, j'ai eu la chance, en 2005 je crois, de rencontrer Henri, j'ai gagné un concours sur Internet, et j'ai rencontré Henri, au Palais des Congrès à Paris, avant un concert, et je lui ai parlé de cette histoire. Il paraît que vous avez inventé la bossa nova. Il me dit un petit clin d'œil, il me dit, mais c'est des bêtises, ça. Moi, c'est ma chanson, c'était un boléro, c'était pas une bossa nova. Donc, j'ai dit, tiens, ça, c'est magique de voir que, il est honnête, quoi. Mais par contre, il en joue.
Pas avec tout le monde.
Pas avec tout le monde, non, mais il en joue, ça, c'est. c'est clair qu'il se vend, et puis sa musique était tellement devenue brésilienne par ce disque, que, il essayait d'expliquer un peu. Et se glorifier un petit peu, évidemment, en France. Mais au Brésil, non. Au Brésil, ça a provoqué beaucoup de mécontentement d'historiens, etc., qui n'étaient pas du tout d'accord sur cette histoire-là. Mais n'empêche que ce qui était aussi intéressant, après on va écouter cette chanson Jardin d'hiver dans sa version brésilienne, mais ce qui était intéressant aussi de voir, que j'ai découvert, c'est que Henri, en fait, dans les années... En 1958, il y avait un film qui s'appelait Europa di Noite, c'était un film italien, qui décrivait un peu la vie nocturne dans toutes les grandes villes européennes. Et quand on parlait de Paris, la partie qui est consacrée à Paris, eh bien, il y avait deux musiques d'Henri Salvador. Il y en a une qui s'appelle « Dans mon île », et puis il y en a une autre qu'on écoutera peut-être tout à l'heure qui s'appelle « Rose ». Et en fait, ces deux musiques sont arrivées alors que les jeunes de l'époque créaient la bossa nova à Rio. C'était des jeunes qui avaient 17 ans, 18 ans, comme Jean Gilbert ou Carlos Lira, qu'on a vu tout à l'heure, et puis d'autres, ils étaient en train de créer la bossa nova. Et donc, ils ont vu Henri dans ce film, et ils ont vu un gars qui était très beau, il était habillé en blanc, il était basané comme eux, puisqu'il venait de Guyane, il était un peu métissé, enfin pas un peu, il était métissé, et ils se sont dit, mais voilà, ça, ce mec, il fait comme nous. Donc nous, on est en train de créer un style musical, mais de l'autre côté du monde, il y a des chanteurs qui s'inspirent de notre nouvelle façon de chanter la musique, c'est-à-dire très douce, la bossa nova. Il y a Henri Salvador en France, il y a Chet Baker, je suppose qu'il était aux États-Unis, il y avait Julie London, tous ces gens-là ont vraiment influencé ces jeunes. Et c'est ça, je les ai rencontrés, ces gens, d'une façon informelle au départ, après on en reparlera d'une façon plus formelle. Et ces gens m'ont tous dit, oui, Henri Salvador, pour nous, c'est quelqu'un d'absolument formidable.
Là, tu dis ces gens, les musiciens...
Les musiciens qui ont créé la bossa, ouais.
Qui ont créé la bossa... Ouais.
Donc voilà, ça c'est un peu le... Alors je propose peut-être maintenant d'écouter Jardin d'hiver, parce que ça c'est vraiment... Bon, j'ai pris la version brésilienne, et c'est un peu comique parce que c'est pas...
Version brésilienne donc, enregistrée par...
Henri Salvador.
Chantée par Henri.
Ouais, qui s'appelle Jardin.
Une autre production alors?
Oui, ça a été fait...
Pas sur le disque...
Non, non, ça a été fait...
Vendu en France.
Quelques années après, avec des bonus. Le disque a été relancé plusieurs fois, il est encore relancé d'ailleurs maintenant en vinyle. Mais à l'époque, il a été relancé avec cette version supplémentaire en brésilien. Qui a son charme, parce que Henri ne parlait pas bien brésilien, mais bon, ça a son charme, quoi, c'est un peu exotique.
Eu só quero só é de pé de manga e de jasmim, muita fita do bom fim aqui no meu jardim. Eu só quero a luz marfim afastando o querubim, respirar pelo pimpim aqui no meu jardim. A chuva cai inundando o capim, do mesmo céu vem você, querubim. O tempo vai, quanto tempo já foi, ninguém mais, só nós dois. Quero ouvir um passarinho subiando tum jubim, cachoeira e mar sem fim aqui no meu jardim. Quero um cheiro de alecrim, tua beleza te adorei, e te ouvir dizer que sim aqui no meu jardim. A chuva cai inundando o caminho, do mesmo céu vem você, querubim. O tempo vai, quanto tempo já foi, ninguém mais, só nós dois.
Version donc en portugais de cette même chanson Jardin d'hiver de Henri Salvador, mais ici chantée en portugais,
ouais.
Et qui prend le nom de Jardim. Donc voilà, alors tu viens de nous raconter un peu le début de... t'as rencontré donc Henri Salvador suite à un concours. Tu veux pas trop t'étendre là-dessus, le
concours?
Non,
non, bah, je sais plus, il fallait...
un concours.
Il fallait répondre à quelques questions sur Henri Salvador, que je connaissais la réponse, j'ai gagné, je me suis retrouvé à Paris, c'est tout, je ne me rappelle plus les détails.
Ok, ça roule. Merci pour les précisions. Alors, et puis bon, ben, suite à ça, donc, ça a continué, tu
vois. Oui,
as,
oui, ça, je
pense avoir entretenu un lien.
Ouais. Et en fait... un jour, je ne sais plus en quelle année c'était, en 2006 je crois, ou en 2006. Bon, moi j'ai l'habitude, même encore maintenant d'ailleurs, j'ai un abonnement au journal de Rio, je regarde en général les gros titres, et puis je regarde là le supplément culturel, et un jour je découvre un tout petit article qui dit « Henri Salvador va enregistrer son prochain disque à Rio de Janeiro » avec, comme arrangeur, Jacques Morellenbaum, qui est un monsieur qui a travaillé avec Tom Jobim, etc. C'est un des plus grands arrangeurs brésiliens. Et je dis « Mais ça, c'est pas possible, ça, je ne peux pas rester les bras croisés, il faut que je fasse quelque chose. » Et donc, tout de suite, ça travaille dans ma tête, et un jour, je me dis « J'ai deux idées. » Et un jour, je me dis « Ben voilà, je tape sur Internet, je tombe sur les Salvador, qui est en fait la maison d'édition de Henri Salvador à Paris, et j'appelle. Et je tombe sur Henri. Bon, j'étais un peu impressionné parce que j'ai pas l'habitude de parler à des...
Enfin, tu l'appelles depuis Rio alors ?
Non, j'étais en Belgique, je travaillais en Belgique. Je l'appelle depuis mon bureau, et puis je dis « Ah Henri, je sais que vous allez aller à Rio, moi, de, je sais plus, un Pâques, pour enregistrer votre disque, j'ai deux choses à vous proposer. » je connais un projet qui s'appelle le trottoir des célébrités à Ipanema, qui consiste à graver ses mains dans le ciment toutes les vedettes de la bossa nova et tous les gens qui ont eu une influence à l'époque. Par exemple, l'architecte Niemeyer qui a créé Brasilia, il a gravé sa main aussi pour ce projet-là. Donc je propose à Henri, quand il sera à Rio, de venir à Ipanema, dans cette petite boutique que je connaissais, pour graver sa main dans le ciment. Et puis je lui propose aussi Mais Henri, vous avez chanté à Urca, qui est un casino, qui est un petit quartier de Rio, qui est très très joli, et très, très protégé, et très sécurisé. Et un casino, enfin il y avait un casino, il était un peu en ruine à l'époque, quand on y est revenu avec Henri. Je dis Henri, vous avez chanté là pendant la guerre, j'aimerais bien qu'on retourne sur place et que vous retrouviez un de vos amis qui chantait, qui jouait avec vous à l'époque. Et donc Henri me dit, ah oui, mais écoutez, je vais avoir beaucoup de travail à Rio, je vous passe ma femme. Bon, ben, Henri me passe son épouse, et son épouse me dit, ah mais ça tombe bien, vos idées, parce que TF1 veut accompagner Henri et il cherche des idées pour filmer. Au-delà de filmer Henri dans un studio d'enregistrement, il cherche des idées originales. Et donc vos idées sont parfaitement originales. Et donc voilà, elle m'a passé le contact de l'attaché de presse d'Henri. Et puis voilà, j'ai organisé tout ça à Rio. Et quand Henri est arrivé à Rio, à Pâques 2006, eh bien j'ai vécu, je pense, une des plus belles journées de ma vie, en tout cas de par ma passion. Eh bien, Henri est venu d'abord à Urca, il a retrouvé son ami, et puis... Après, ils sont allés le soir, ils sont allés à Ipanema, il a gravé ses mains devant le public de Rio. Et pour moi, ça a été un moment magique, parce qu'en plus, c'est la dernière fois qu'Henri a été confronté au public de Rio. Parce que la gravure des mains, c'était devant, je sais pas, il y avait 200 personnes peut-être. Et c'était la dernière fois qu'Henri a été face au public de Rio. Il n'a plus eu l'occasion après, puisqu'il n'est plus revenu au Brésil, et puis il est décédé. Donc ça a été vraiment un moment inoubliable, et puis après... Je l'ai raccompagné à son hôtel, il logeait au Copacabana Palace, que c'est l'hôtel le plus beau et le plus luxueux de Rio. Et puis je me souviendrai toujours qu'à un moment donné, il me demande « Et toi, t'es qui, toi ?» Et parce que bon, il savait pas trop qui j'étais. Et puis je lui ai dit « Écoutez, moi je suis un monsieur qui a la chance d'avoir un travail qui lui plaît et qui lui paye ses passions. Et ma passion, c'est la musique brésilienne et c'est pour ça que je me retrouve face à vous. » Et puis à minuit pile, il s'est levé, il est allé se coucher. Ça, c'était, enfin, voilà, c'était comme ça que... Voilà, c'est une des expériences que j'ai vécues donc, avec Henri au Brésil. Puis après, je l'ai recroisé quelques fois en France. Et puis bon, voilà, et puis il est parti en 2008, la veille de la Saint-Valentin. Donc ça, c'est aussi une date dont je me souviens. Et c'est ma petite histoire, c'est Pierre Barou qui m'a appelé. Alors, je travaillais en Irlande à ce moment-là. Et il m'a dit, voilà, j'ai appris que Henri vient... Je savais que tu aimais Henri, donc voilà, je t'annonce qu'Henri n'est plus là. Et puis moi, j'ai appelé son vieil ami là, qu'il avait rencontré à Urca quelques années auparavant. Donc voilà, c'était un peu un des chapitres qui s'achevait. Mais bon, il y en aura d'autres que je vous raconterai dans quelques minutes.
Alors, on va continuer justement avec tes sélections musicales.
Ouais, ben la prochaine musique, c'est toujours une chanson extraite du fameux...
Je vais juste dire un petit mot avant excuse-moi Emmanuel, mais donc tu as aussi aimé, évidemment, on sent, hein, tu n'es pas musicien.
Pas du tout.
Pas du tout, mais cet embryon d'intérêt pour la musique brésilienne et enfin d'autres musiques déjà avant, mais à Rio plus pour la musique brésilienne, et puis bon, bah l'idée de rencontrer Henri, tout ça, ça t'a mené aussi à écrire.
Ouais.
Une manière de pratiquer un peu cette passion, enfin de mettre la main à la pâte, on va dire, hein, puisque on parlait des mains d'Henri qui entre dans la pâte. Eh bien, tu as donc créé une petite revue qui s'appelle
Bossa Mag,
hein, et que tu as commencé à éditer à partir de...
Bon, non, je dirais 98-99.
98-99, donc très rapidement,
ouais, très rapidement
à peine arrivé, paf, on s'y met. Et donc, dans un édito ici qui est dédié à Henri, je pense, mm-hmm. Ce numéro-là est dédié à Henri, eh bien, tu écris quelque chose qui est assez joli, hein, quand même, j'aime bien le lire, puis bon, bah, on passera à la musique. Mais donc, tu dis ici, à la fin de ton édito... Je n'ai jamais vraiment su d'Henri si c'est d'avoir grandi dans un cocon d'amour qu'il tenait ce rire répandu comme un torrent ivre, comme pour éloigner les marauds venus lui dérober son doux secret.
Oui, Henri, c'était une personne, tout le monde n'a pas compris ça, mais moi je l'avais compris. Henri, c'était une personne hypersensible, très 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 sensible. On ne peut pas avoir fait des musiques comme il l'a fait, comme il les a faites sans être hypersensible. Mais par contre, c'était quelqu'un de très très pudique qui gardait pour lui son jardin secret. Donc dès que vous approchez un peu trop de lui, il se mettait à éclater de rire. C'était une façon de nous dire ben, restez à distance. Et moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et donc voilà, il y a des gens qui l'ont très mal pris parce que quand je l'ai rencontré la première fois, par exemple, il m'a traité de gosse de riche. Je dis, mais parce que pour qu'il me traite comme ça, il ne me connaît même pas. Et bon, moi, ça m'a fait rigoler, j'ai éclaté de rire, mais je sais qu'il y a des gens qui étaient très fâchés. Et c'était sa façon de s'adresser aux gens qui ne connaissaient pas. Une façon de leur dire, nous, on ne se connaît pas, je t'envoie
un petit. Taquiner un peu.
Je te taquine, et je vais voir comment tu vas réagir. Si tu réagis mal, passe ton chemin, ça ne m'intéresse pas. Si tu réagis bien, continuons notre chemin ensemble et on va peut-être pouvoir converser.
Ok. Et donc alors, Celso Fonseca maintenant, le morceau qu'on va écouter.
Oui, Celso Fonseca, c'est un des... Bon, d'une part, c'était à l'époque, il a commencé sa carrière comme guitariste de Gilberto Gil. Et puis Celso Fonseca, c'est un de ceux de la génération plus récente qui a continué à perpétuer la bossa nova. Et il a aimé une chanson qui était aussi dans ce disque d'Henri Chambre avec vue. Cette chanson s'appelle J'ai vu. Et il a demandé à son parolier habituel, qui s'appelle Ronaldo Bastos, il a demandé de créer une version qui s'appelle N'appelle et Déon Flâneur, qui est dans la peau d'un flâneur. Et j'ai trouvé ça... Bon, la traduction n'est pas tout à fait littérale des paroles, mais par contre, ce titre, Dans la peau d'un flâneur, je trouve qu'elle correspond tellement bien à Henri, qui était un flâneur. C'était quelqu'un qui passait son chemin lentement et qui savait profiter de la vie. Et c'est pour ça que, bon, personnellement, j'ai voulu partager avec vous cette chanson là pour l'instant.
Je trouve personnellement qu'il y a beaucoup d'émotions, même si c'est vrai que peut-être il y a un peu des choses qui se ressemblent dans la manière de chanter de Caetano Veloso. Une très belle chanson, Napelli Deum Flâneur. Alors, on va en fait avancer un petit peu plus vite que prévu, parce que, comme nous le disait notre cher ami Hubert, le temps passe. Et donc, on va passer maintenant à un autre artiste que Emmanuel a eu l'occasion de rencontrer et qui était en fait un peu l'objet finalement, enfin ce qui a motivé le fait de faire ce programme, puisque quand Philippe nous a dit « Ah, je crois même qu'il l'a interviewé là, », là, là, on a dit « Quoi ? Hein, il l'a interviewé ? Ah ben ça c'est intéressant, elle est où cette interview ?» Hein, tu te souviens Hubert ? Non, tu te souviens ? Oui. Et donc, on va passer à un autre personnage qui sera en concert le 23 du 10, ici au Cirque Royal de Bruxelles. Et donc, c'est bien de Gilberto Gil qu'on va parler maintenant, puisque tu as eu l'occasion, à travers ton parcours à Rio, de rencontrer justement Gilberto Gil.
Oui, Gilberto Gil. La prochaine musique qu'on va entendre, ce sera Gilberto Gil qui parle de Rio. Mais je vais vous expliquer effectivement comment j'ai rencontré Gilberto Gil, mais c'est tout à fait lié à Henri Salvador, parce que bon, Henri Salvador nous ayant quittés. Et puis, par toutes les recherches que j'ai faites sur Henri Salvador, je pense que je suis devenu une espèce de point de contact de Catherine Salvador, son épouse, quand il s'agissait de parler d'Henri et du Brésil. Et donc, en 2019, il y a une productrice parisienne qui me téléphone, qui me dit, voilà, on va faire un documentaire, qu'est-ce qui est passé sur France Télévisions, qui s'appelle Henri Salvador face B comme Bossa. Et ils me disent, bon, on n'a pas beaucoup de sous, et comme tu vas souvent à Rio, est-ce que tu peux pas nous aider à aller avec un caméraman, filmer quelques endroits mythique de Rio, qui correspondent un peu à l'époque où Henri était. Je dis oui, pas de souci, je peux faire ça. Mais si vous voulez, je peux vous proposer d'interviewer des artistes. Alors je le propose d'abord des artistes plus accessibles, entre guillemets, qui est par exemple Roberto Menescal, qui est un guitariste qui est aussi un des fondateurs de la Bossa. Et puis je dois dire que je me suis un peu amusé, un peu frimé, en disant, mais si vous voulez, je vous interviewe Gilberto Gil. Ah bon, tu veux interviewer Gilberto Gil? Je dis oui, je peux vous interviewer Gilberto Gil. Bon, c'était du bluff, mais bon, je savais quand même de quoi je parlais. En fait, je suis très ami de par mes séjours à Rio avec une productrice que j'ai appelée. Je dis voilà, je voudrais continuer mes recherches sur Henri Salvador et je voudrais interviewer Gilberto Gil pour essayer de comprendre la vraie histoire d'Henri et du Brésil. Henri qui disait qu'il l'avait inventé. Et je dis, moi, je sais qu'il s'est passé quelque chose et je voudrais que des gens comme Gilberto Gil témoigne de ce que représente Henri pour la musique brésilienne. Et Gilberto Gil, il se fait qu'il était à l'époque ministre de la Culture. Il avait été ministre de la Culture de Lula dans son premier mandat et il avait décoré Henri Salvador de l'Ordre du Mérite Culturel, qui est la plus grosse récompense qu'un artiste peut recevoir au Brésil. Et ça, la même année que jouant Gilberto et Maria Bethagne. Donc je dis, ça c'est déjà quelque chose. Et donc, me voilà, je téléphone à cet ami qui me dit, voilà, tel jour, telle heure, tu vas chez Gilberto Gil. Bon, moi j'ai jamais fait ça de ma vie, je suis pas journaliste, même si j'en rêvais quand j'étais môme. Et donc je prépare mes questions et je me retrouve dans la maison, le studio de Gilberto Gil, avec plein de monde, hein, puisque c'était plein de journalistes qui attendaient, qui faisaient la file, avec le caméra et tout ça. Et moi j'étais avec deux caméramen de France Télévisions, et mon iPad sur lequel j'avais préparé toutes mes questions, et me voilà devant Gilberto Gil, qui était raide comme un piquet, je dirais, pas du tout souriant, il me dit bonjour, ouh là là, comment ça va se passer ce truc, ça va pas être cool. Et puis on s'est assis, et puis on a dit ça y est, moteur, on a commencé à filmer, et à ce moment-là, le monsieur c'est devenu une lumière. Et moi je dis souvent, j'ai eu l'impression par son look, ses cheveux blancs, j'avais l'impression d'avoir Mandela en face de moi. Un monsieur mais tellement beau déjà, mais tellement élégant et puis tellement fin dans sa façon de parler, le portugais qu'il parle était tellement pur. Je faisais l'interview en portugais. Et puis pour la petite anecdote, je n'oublierai jamais non plus, bon, c'est la première fois de ma vie que j'interviewais quelqu'un. Et donc à un moment donné, quand je posais ma question, je pensais souvent, surtout à la suivante. Donc j'écoutais pas trop ce qu'il disait. Et à un moment donné, je pose ma question suivante et il me dit, Emmanuel, il me semble qu'il a une certaine redondance par rapport à ce que je viens d'expliquer. Bon, moi je m'attendais à ce qu'il m'envoie une claque en disant, écoutez, vous reviendrez quand vous connaîtrez votre métier. Pas du tout, il a employé une langue mais tellement belle pour me dire, écoutez, j'ai déjà répondu à la question. Et puis après, par exemple, je lui ai demandé, vous étiez un ami d'Henri Salvador? Il m'a dit, non, je ne pourrais pas employer ce mot-là, je pourrais dire, j'étais une connaissance d'Henri Salvador. Mais bon, il m'a confirmé, comme Menescal me l'avait fait, et comme d'autres l'ont fait après, comme Marcos Valle, Paula Morellenbaum, Joyce Moreno, ils m'ont vraiment confirmé que Henri Salvador était effectivement une des vedettes, comme Chet Baker, comme Julie London, qui les avait influencés quand ils avaient 17-18 ans, et que c'est pour ça que même encore aujourd'hui, Henri Salvador, c'était pour eux... C'était pour eux un prince.
Un grand.
Ouais. Et c'est pour ça que moi j'ai choisi cette chanson de Gilberto Gil qui s'appelle Rio Eu Te Amo, c'est Rio Je T'aime. C'est un extrait d'un film qui s'appelle Rio Je T'aime. Et moi je trouve que c'est aussi un hymne tellement beau de ce chanteur à Rio de Janeiro. Donc voilà, c'est pour ça que je proposais de partager avec vous cette musique. Mmh.
basta avistar o Cristo Redentor. É associar a isto a minha dor. De onde quer que eu esteja, qual seja, longe ou perto o lugar, de pedra sobre a pedra e luar. Nesta paisagem bela, toda cor, naquela tela que o pintor pintou, basta avistar o Cristo e a isto poder associar amor e dor e amar e amar. Rio, 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 choro, rio, rio e choro. Rio, 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 rio e choro, choro e rio. Acompanhar-te os passos da paixão tem sido em parte a arte da nação. Tantos poetas, tantos cantores, traçando teus perfis e olhos do mundo inteiro pro teu nariz. Ontem nos deste um jeito de dançar. Hoje eu trago no peito teu penar. Penta a cidade imensa, quem pensa poder te entender, que entenda e venha me dizer. Rio, 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 choro, rio, rio, choro.
Rio, 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 choro, choro e rio. Rio, rio, rio,
Voilà, alors à l'écoute donc de Gilberto Gil, dont on annonce le concert. Vous êtes à l'écoute de Radio Panique, l'émission de Djiboutique. Ce sera le 23 du 10 au Cirque Royal. Alors là, c'est vrai qu'il faut avoir un peu d'économie de côté. Cirque Royal, ça touche entre les 20 et 30 euros, hein, ça avoisine. C'est quand même des très très gros concerts et c'est une pointure. Donc voilà. Alors un petit mot agenda quand même. Ce soir, il y a une jam latina au Sounds Resist. Hein. Vous savez que on en parle de temps en temps. Sounds Resist, c'est donc l'ancien Sounds, mais qui accueille une programmation à tendance sociale, des projets sociaux, des projets qui sont parfois politiques. Ce soir, en tout cas, c'est plutôt musical. C'est une jam latina colombienne avec différents intervenants. On appelle ça Jam Latina édition Colombia Caribe. Il y aura Dani, Diego, José, Juan, Emeline et Manié. On parle de Gaita Corrida, de la cumbia, du porro et du bulerengue. C'est ce soir donc, c'est au Sounds, c'est rue de la Tulipe, tout près de la place Fernand Coq. Alors dans les événements qui auront lieu les prochains jours, il y a un concert ce samedi à Musique Publique, Las Lloronas. Hubert est en contact avec elles. Elles viendront peut-être un jour au studio, si tout va bien. Si tu arrives à déployer tout ton charme, Hubert, je pense
si
que
on
ça...
on arrive à caler une date, qu'il
et y a ça aussi.
Elle et nous.
Elle et nous, effectivement. Mais donc, voilà. En attendant, il y a le concert ce samedi, si vous voulez y aller, à Musique Publique. Alors, le Sounds, c'est aussi d'autres dates, hein, d'autres rendez-vous. Le 15 du 10, Kumbélé, ça a aussi à voir avec la Colombie, je pense, mais avec un projet un petit peu particulier. Alors, il y aura aussi le week-end suivant à Musique Publique, le festival Sonamos Latinoamérica, qu'on aime bien, puisque c'est le programmateur n'est autre qu'Osvaldo Hernandez, qui vient de temps en temps nous en parler. Mais cette année, comme vous voyez, on n'est pas que dans le copinage hein, à Djibouti, ils sont pas là cette année. Voilà, c'est comme ça. Il y aura le samedi 14, une soirée dans le cadre de ce festival Sonamos Latino America, America, avec une chanteuse à texte, hein, comme sont les chanteuses à texte de l'Amérique latine, hein, comme celle dont on a parlé ces derniers temps, Parra, Violeta Parra. Eh bien, on a Elisabeth Morris, M-O-2-R-I-S, une chanteuse vraiment intéressante, je pense, chilienne, je pense aussi, et elle, ce sera donc le samedi 14, alors il y aura le même soir dans le foyer, il y aura le duo Zumbao, donc voilà, il risque d'y avoir un peu de l'ambiance un peu partout, ce qui n'est pas toujours le cas au Molière, on concentre sur la salle. Voilà, ce jour-là, il y aura l'ambiance un peu partout dans le cadre de ce festival Sonamos Latino America qui se déroulera donc du 12 au 14, donc ça commence le jeudi, et puis il y a le vendredi, et puis il y a le samedi. Enfin, voilà, allez voir sur le site de Musique Publique. On rappelle Gilberto Gil, lui, ce sera le 23 du 10, 23 octobre, et voilà, on revient avec Emmanuel, qui va encore nous parler un petit peu de ses projets actuels, puisqu'il nous a parlé de tout ce... de cette bouteille qu'il a prise à force de traîner à Rio. Ça fait de la bouteille, on dit, comme on dit, avec les musiciens, etc. Et forcément, il a finalement mis la main à la pâte au niveau musical aussi, hein, Emmanuel.
Oui, oui, tout à fait. Ben, la vie continue. Hein. Donc,
niveau production musicale, je dis.
En parallèle,
c'est là qu'on arrive. Ouais.
En parallèle de mes activités professionnelles, c'est vrai qu'avec une amie, Martine Renoir, on a ouvert une salle de concert à Tour et Taxi, une salle qui s'appelle le Baïchou, qui est à la fois pour des projets sociaux, mais au niveau musical, c'est pour tous les types de musique. Et moi, ce qui me tenait à cœur, c'est de faire de cette salle le centre de référence de la musique brésilienne à Bruxelles. C'est pour ça qu'on a reçu déjà des gens comme Hamilton de Holanda, on a reçu Roberta Sá, Paula Morellenbaum, les deux fils de Baden-Powell, Philippe Powell et Marcel Powell. Donc voilà, ça c'est une activité complémentaire pour laquelle j'ai pris un petit peu de retrait pour l'instant, laissant à Martine la gestion de la salle, parce que je suis toujours sur un projet musical au Brésil, lié aussi à Henri Salvador, puisque au Brésil j'ai fait des projets, j'ai tenté de monter des projets musicaux avec Gilberto Gil, etc., lié à Henri Salvador. Ces projets n'ont pas abouti parce que, à un moment donné, Bolsonaro est arrivé, donc la culture, c'est devenu... ça n'avait plus qu'un intérêt. Mais maintenant, Lula est revenu, donc on se réouvre un peu, le pays se réouvre un peu à des projets culturels. Et donc, mon rêve est de faire un disque, d'enregistrer un disque de musique d'Henri Salvador interprété par toutes les vedettes brésiliennes qui représentent encore aujourd'hui la bossa nova. Alors, c'est un nouveau défi, évidemment, parce que je n'ai jamais fait ça de ma vie non plus. Et au mois de mai dernier, je me suis dit, il faut que je mette le pied à l'étrier, parce que faut bien commencer par quelque chose. Et donc, j'ai appelé la même amie productrice qui m'avait permis de rencontrer Gilberto Gil, et je lui ai dit, écoute, voilà ce que je voudrais faire. Est-ce que tu peux me faire un budget? Moi, je voudrais Marcos Valle et Joyce Moreno pour interpréter une chanson d'Henri qui s'appelle Rose, qui était celle qui était dans le film qui a fait connaître Henri à l'époque de la bossa. Et dis-moi les musiciens qui veulent, trouve-moi un arrangeur, et fais-moi le budget. Bon, elle m'a fait ça, et puis j'ai dit, ok, c'est bon, j'y vais. Et au mois de mai, je suis allé en studio avec Marcos Valle et avec Joyce, et on a enregistré en 3 jours, on a fait cette musique qu'on va découvrir dans quelques minutes, peut-être c'est avec celle-là d'ailleurs qu'on va terminer l'émission. C'est une musique donc, c'était Marcos Valle l'arrangeur, et c'était assez amusant parce que bon, Marcos Valle, je ne sais pas si on va le voir, on va le découvrir, je ne sais plus exactement la version que je vous ai passée, parce que j'ai la version avec, c'est un duo normalement, mais je sais que j'ai la version avec chacun des artistes séparément, et... Marcos Valle ne parlait pas bien français, donc il était un peu, tout était phonétique. Donc ça a été très amusant de l'aider avec son épouse à prononcer correctement en français les mots. Donc ça, c'est la première, celle que vous allez entendre. C'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Ça s'appelle Rose. Après, normalement, il devrait y en avoir 10 autres. Et pour la petite histoire, ça c'est aussi le hasard des rencontres, mais en France cette fois-ci, il se fait que je vais faire ce projet avec le monsieur qui s'appelle Marc Di Domenico, qui a fait en chambre avec vue Henri Salvador dans les années 2000. Donc ça, c'est absolument magique d'avoir pu rencontrer ce monsieur-là et de voir qu'il s'intéresse à mon projet. Donc on va essayer de faire ça en 2024. Et puis surtout que 2025, en France, ce sera une nouvelle année du Brésil. Donc c'est ce sera un bon moyen, un bon moment pour reparler d'Henri et du Brésil en France pour 2025.
On rappelle que tu l'as souligné d'ailleurs dans ton magazine... justement, Henri Salvador avait été le parrain de cette année du Brésil en France.
Il y a une dizaine d'années. Voilà, 2005. Enfin, en 2005, donc ça fera 20 ans. Et donc voilà, il était le parrain, donc c'était raison de plus pour 20 ans plus tard de refaire quelque chose en son honneur. Voilà. Enfin, là, en fait, où en sont mes projets à l'heure actuelle.
Écoute, merci de venir partager tout ça avec nous. Voilà, c'était un plaisir de t'accueillir.
Ça a été un bonheur pour moi aussi.
T'es le bienvenu ici, Emmanuel, et bonne chance pour tous tes projets. Hein.
Merci.
Et bon voyage.
Merci.
Merci Hubert aussi.
Merci Hubert, merci beaucoup.
On se retrouve la semaine prochaine. Enfin, nous, c'est nous qui partons en vacances la semaine prochaine. Hein. On sera sur les bords de l'Ourthe. On espère que vous nous écouterez. Nous, on sera là-bas. Donc voilà. Merci à tous. Bonne soirée sur Radio Panique 105.4 FM, Djibouti. Le site djiboutique.be pour les podcasts.
Elle avait mis sa robe rose, rose, rose. Tous les passants qui passaient sur elle s'est retourné.
Ce n'était qu'un rêve rose. Qu'elle faisait tous les soirs, seule devant son miroir.
Son rêve un jour de mai
devint réalité. S'envola.
Elle avait mis sa robe rose, rose, rose.
Et parmi tous les garçons qui dansaient à Robinson,
Pierrot lui dit tant de choses.
Rose, rose. Les soirs de ces beaux jours,
rose connue.